Louez le Seigneur. Continue de parler, Seigneur. Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Apocalypse 5 a été mentionné ce matin. Verset 5, nous l'avons lu ce soir. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Amen. C'est une parole merveilleuse. La réunion de ce matin m'a vraiment beaucoup fortifié. C'est si bon. Il dit, ne pleure point. Voici, il a vaincu. Si nous avons une telle ambiance qui nous porte à pleurer, nous devons voir que quelqu'un a vaincu le lion de la tribu de David, de la tribu de Juda. C'est si bon de regarder au Seigneur. C'est merveilleux. Le Seigneur est le vainqueur. Il a tout vaincu. Amen. Et désormais, il vit en nous. C'est la meilleure chose que Dieu ait pu nous donner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vit en nous et il fait de nous des vainqueurs. Je remercie le Seigneur pour cela. N'est-ce pas un futur merveilleux? Le Seigneur fait de nous tous des vainqueurs. Il ne veut pas être tout seul assis sur le trône. Il veut que nous soyons tous assis avec lui sur le trône lorsqu'il revient. Quelle espérance! C'est un appel très élevé d'être assis avec Dieu sur le trône. Depuis le début, c'était son plan. L'homme était prédestiné à régner avec Christ, mais Satan est venu au milieu. Le Seigneur n'a pas abandonné. Il veut atteindre son but. Il veut avoir des hommes à la fin pour régner avec eux. C'est si merveilleux. C'est le fardeau pour ce soir. Nous voyons le chiffre 3 romain du résumé. Lisons ce titre ensemble. Point 3. Notre collaboration avec Christ pour devenir vainqueur. Merci Seigneur. Notre collaboration avec Christ pour devenir des vainqueurs. Il est nécessaire d'avoir une collaboration avec le Seigneur pour que nous soyons ses vainqueurs aujourd'hui et lorsqu'il revient. Philippiens 2 nous montre clairement. Verset 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement jusqu'à l'accomplissement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Paul a dit aux croyants de manière très claire. Il montre clairement que nous avons une responsabilité. Une partie est de notre côté. Il leur dit clairement, travaillez à votre salut, mettez en œuvre votre salut. Le salut initial, qu'est-ce que tu as fait pour cela, Johannes? Le fait que tu sois libéré aujourd'hui, sauvé. Est-ce que c'est parce que tu as un merveilleux papa? Certainement non. Et personne d'entre nous ne peut se glorifier qu'il était si bon et que maintenant il est sauvé. C'était la grâce du Seigneur. Et maintenant, nous avons reçu la vie éternelle. Est-ce que c'est la même chose maintenant? Tu ne fais rien, tu attends, et en fin de compte, tu es parvenu à maturité. Elia, c'est ce que c'est ton expérience. Tu as été sauvé, le Seigneur t'a été miséricordieux, Dieu, et depuis, et tu ne fais rien dans ta vie spirituelle, et puis ça monte spontanément. Je crois que personne n'a fait cette expérience. Ce n'est pas ainsi que ça se passe. Malheureusement, beaucoup pensent ainsi. Oui, le Seigneur vit en moi et c'est terminé. Mais il n'en est pas ainsi. Il dit ici, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Waouh, c'est quelque chose de fort. La crainte et le tremblement. Tu as ça seulement si tu as des tâches difficiles, si tu es devant, juste avant ton examen final, il y a une certaine tension qui règne. Le salut n'est pas unilatéral. Nous sommes sauvés, le Seigneur fait tout pour nous, nous sommes parvenus au but. Non, il n'en est pas ainsi. Il dit ici, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la maturité. Ça signifie, maintenant que nous sommes nés de nouveau, c'est une autre condition. Avant que tu sois né de nouveau, Dieu ne peut rien exiger, parce que tu n'es qu'un pécheur. Tu as une chair déchue, tu as une âme tombée et un esprit mort. Comment Dieu peut t'utiliser ? Maintenant que tu es né de nouveau, tu as un esprit né de nouveau. Le vainqueur vit en toi. Et cette condition est la base sur laquelle Paul peut dire, mettez en œuvre votre salut. Cela signifie, collabore avec lui. Le Seigneur ne nous a pas créés comme des robots. Nous avons tous une volonté libre. Est-ce que quelqu'un t'a forcé de venir ici? David, est-ce que on t'a obligé de venir ici? Tu es venu de ta propre volonté. Nous sommes ici de notre propre gré. Nous avons tous une volonté libre. Et parce que nous avons une volonté libre et un esprit né de nouveau, que Dieu a créé ainsi, il dit, mettez en œuvre votre salut. Dieu veut voir que nous collaborons avec lui. Adam et Ève, ça aurait été si simple, beaucoup plus simple s'ils avaient été comme des machines, s'ils ne pouvaient pas prendre de décision. Mais Dieu n'a pas de plaisir à créer l'homme de telle manière. Dieu ne veut pas avoir de machine. Il nous a créés avec une volonté libre. Et par cette volonté libre, Dieu veut voir que nous collaborons avec lui. Il est si meilleur lorsque les enfants font quelque chose de leur propre gré. Si je dois toujours pousser et être derrière eux, parfois c'est nécessaire, bien sûr, mais c'est bien mieux si ça vient spontanément des enfants. Et Dieu aimerait bien que nous puissions collaborer avec lui. Louez le Seigneur. C'est vraiment une merveille que nous puissions collaborer avec lui. Il ne fait pas les choses seul, mais nous devons collaborer. Dans Matthieu 7, le Seigneur a aussi dit quelque chose à nous les croyants. Au verset 13 et 14, je vous lis ce qu'ils en peuvent lire aussi. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. et il y a peu qui les trouvent. Amen. Prends le chemin étroit. Est-ce que ce verset parle du salut initial? Est-ce que le salut initial est étroit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et sont justifiés par la grâce, pas par les œuvres, sans mérite. Ça, c'est merveilleux. Ce n'est pas le chemin étroit. Le chemin étroit, lorsque cela devient étroit, alors tu dois laisser quelque chose. Si tu veux passer par le portail de sécurité à l'aéroport, tu ne peux pas tout prendre, ta bouteille de coca, ton couteau de poche, ta lampe de poche. Qu'est-ce que j'ai encore comme idée? Si tu viens là, à cet endroit, avec ces objets, tout te sera pris. C'est un chemin étroit, tu ne peux pas passer avec toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions pour pouvoir passer. Et le Seigneur nous dit à nous les croyants, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et qui sont les nombreux ici? Est-ce que c'est uniquement les incroyants? Les incroyants, s'ils restent incroyants, ils vont tous aller à la perdition. Mais ici, le Seigneur avertit les croyants. Il est possible, en tant que croyant, que tu choisisses un chemin confortable et large. Dans Apocalypse, Babylone est désignée comme étant une prostituée. Je suis parfois surpris dans certains groupes chrétiens. Dans l'église, c'est très confortable si tu peux faire tout ce que tu veux. Et personne ne te dit quoi que ce soit. Est-ce que c'est un chemin étroit? C'est un chemin large. Une telle vie conduit les chrétiens à la perdition. Tu n'es pas sauvé dans ton âme. Tu peux rester tel que tu es. C'est très confortable. Mais cela conduit à la perdition. C'est vraiment dangereux. La parole nous avertit. Il y a beaucoup qui prennent ce chemin. Le premier soir, nous avons été avertis de ne pas vivre confortablement. Combien c'est facile de faire des vacances à la maison. Peut-être que nous ne voyageons pas ici et là. Cela n'apporte rien. Mais qu'en est-il à la maison? Qu'en est-il dans ma vie journalière? Il est très facile d'y mener une vie confortable. Ensuite, si nous ne veillons pas, alors il y a un chemin large qui se trace. Ouais, je vais laisser de côté la réunion de frères. C'est pas nécessaire, je viens peut-être la semaine prochaine. Ou bien se déplacer, j'ai Zoom, c'est beaucoup plus facile. Laissons le trajet de côté. La semaine prochaine, je vais me déplacer de nouveau. L'ennemi est comme un serpent. Nous avons vraiment un ennemi terrible. Comment est-ce que l'ennemi nous combat, nous les croyants? Mon expérience est qu'il ne travaille pas tellement avec des canons ou des choses horribles manifestes. Dans mon expérience, l'ennemi me propose un chemin plus large. Merci. Fais des choses plus faciles. Tu n'as pas besoin de lire toujours la parole, lis autre chose. Dépense ton temps inutilement. C'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi est très subtil. Il recherche des choses qui nous détournent, qui nous plaisent. Et si nous ne veillons pas, tout à coup, nous serons au milieu de tout cela. Et c'est un chemin large. Ensuite, nous ne remarquons pas, mais nous goûtons à la perdition. On prie moins, on ne combat moins pour le plan du Seigneur. Peut-être qu'on ne combattons même plus pour le plan du Seigneur. Lors de cette conférence, nous avons dit que nous puissions nous rencontrer avant les réunions pour que nous puissions combattre pour le plan du Seigneur. C'est déjà quelque chose qui est moins confortable que d'habitude. Nous devons vraiment veiller. L'ennemi est vraiment un serpent. Et il recherche des chemins larges par lesquels il puisse nous détourner. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage, prends le chemin étroit. Que nous puissions ne pas devenir confortables. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux vaincre. Aujourd'hui, je veux apprendre à vaincre. Mon confort. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Parfois, il est effrayant d'avoir des relations avec certains croyants. Souvent, j'ai le sentiment que nous ne connaissons plus la vie. Il y a peu de temps, nous avons eu une manifestation et il y avait un message. Il y a un message qui a été lu. Il y avait 1000 jeunes qui étaient là. Il y a quelque chose qui a été lu et les enfants étaient détournés. Et le prédicateur a lu jusqu'à la fin, malgré le fait que plus personne n'écoutait. Et tout le monde y a dit « Amen » à la fin. J'étais vraiment étonné à la fin. J'aimerais pas voir quelque chose comme ça à la fin dans l'Église, Seigneur. Seigneur, c'est une chose morte. Il n'y a pas de vie. C'est un chemin large. Il n'y a pas un seul... Ça n'atteint pas de cœur. Le Seigneur ne désire pas cette chose. Il y a vraiment un point là à vaincre en nous. Cherchez le Seigneur. Étroite est la porte, resserrez le chemin. Parfois je me demandais, mais comment ça se fait? Ces croyants prêchent la parole, ils sont sérieux d'un certain côté. Mais lorsque la porte est étroite, ça signifie que tu dois laisser quelque chose de toi-même, quelque chose à vaincre. Dans mon expérience, il y a quelque chose qui doit percer en moi. Est-ce que c'est si simple? Il y a Matthieu 11, verset 12, je vous le lis. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Prendre le chemin étroit, toucher la vie du Seigneur, c'est quelque chose qu'on doit vouloir. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié ce matin, lorsque nous avons lu ces versets, il y avait une volonté ici. Nous voulons toucher la vie. Nous voulons toucher cette vie journellement et nouvellement. Nous ne voulons pas que cette vie diminue chaque jour. Nous voulons vraiment saisir cela même avec violence. Ce chemin étroit. Et dans Lévitique 6, le Seigneur nous montre aussi combien il est important de prendre ce chemin étroit chaque jour. Lévitique 6, verset 5, il s'agit de l'Holocauste, 5 et 6. Donc Lévitique 6, verset 5 et 6, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. comment est-ce qu'on peut faire que le feu ne s'éteigne pas? Si le Seigneur envoie une fois le feu du ciel et qu'il ne fait plus cela. Ensuite, il a dit, chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, matin après matin, arrangera l'Holocauste. Au début, Dieu l'a allumé, mais ensuite, il ne l'allume plus. Chaque jour, c'est le sacrificateur qui vient. Ça, c'est notre part. C'est pourquoi le sacrificateur fera cela matin après matin. Qu'est-ce que vous faites le matin? Chaque matin, allumez du bois. Que faites-vous le matin? Allumez du bois. Ensuite, la graisse et un feu éternel ne doit jamais s'éteindre. Nous collaborons. Ainsi, le feu ne s'arrêtera point de brûler. C'est si important chaque jour, matin après matin, que nous collaborions avec le Seigneur. À quoi ressemble notre collaboration? Il y a un point ici, c'est le point C, c'est la prière. Prier. C'est ce que Paul a fait dans Éphésiens 3. Il n'a pas prié qu'il puisse mieux dormir ou qu'il ait moins de problèmes au travail. Il avait une autre prière, Éphésiens 3, 16. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Amen. C'était sa prière, que l'esprit soit fortifié. Louez le Seigneur dans notre prière. Nous prions que Dieu fortifie chaque jour nouvellement notre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Louez le Seigneur. Le Seigneur veut se répandre en nous et veut gagner nos cœurs. Et pour cela, nous avons besoin de cet esprit fortifié, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen, Seigneur. C'est vraiment une bonne prière. On peut avoir beaucoup de prières. Je peux vous dire que cette prière est une prière très efficace. Que notre homme intérieur soit fortifié. Si nous prions ainsi, qu'est-ce qui va se passer? C'est au chapitre 1, verset 19, qu'on le voit. Nous allons expérimenter l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous pouvons prier ainsi afin que nous puissions vraiment expérimenter cette puissance de la résurrection. Chaque matin, alléluia, chaque jour est un jour de résurrection, raison pour laquelle la prière est si importante. Oui, Seigneur Jésus, que nous puissions invoquer le Seigneur, appelez le Seigneur, criez au Seigneur pour expérimenter cette puissance. Nous sommes exercés ce matin de mélanger cette parole vivante avec la foi. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Seigneur, cette bonne nouvelle, la parole est très précieuse. C'est une bonne nouvelle. La parole est merveilleuse. Il n'y a pas de problème avec la parole. Elle est annoncée. Mais à certains, elle ne servit à rien. Et quelle était la raison? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Elle n'était pas mélangée à la foi. Nous ne voulons pas juste lire la parole, mais il est toujours bon de répéter au Seigneur, « Seigneur, si je lis ta parole, alors je vais la mélanger avec la foi. Je veux que ce que dit ta parole s'accomplisse en moi. » Ça, c'est la foi. La foi signifie pas juste lire, mais dire au Seigneur, « Seigneur, ce que je lis, que cela s'accomplisse maintenant en moi. » La foi appelle en existence ce que dit la parole. Lisons la parole d'une telle manière afin que cela arrive. Lire la parole est si bon. Si tu lis la parole et tu utilises ta foi, dans Colossiens 3:16, voyons ce qui se passe. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Amen. C'est si précieux parce que le Seigneur peut parler si souvent. Il y a tant de situations où je demande simplement au Seigneur, « Seigneur, où est le problème ?» Et tout à coup, le Seigneur me donne une parole et nous dit, « C'est ça le problème. » Mais pour que la parole puisse monter, ça veut dire qu'elle doit d'abord habiter en nous. C'est pourquoi il est si bon, même les jeunes, que nous puissions lire régulièrement la parole. Parfois, quand tu la lis, cela n'entre pas tout de suite dans ton expérience. Mais si elle habite en toi, et la situation vient, et la parole habite en toi, tout à coup, tu arrives à l'expérience. Mais si elle n'habite pas en toi, comment veux-tu que l'expérience vienne à toi? Et c'est bon d'exercer, même avec les enfants, de laisser habiter la parole en nous. Cette parole habitée, c'est une parole très forte. Une traduction dit « Entrez avec violence dans ta demeure. » Parce que notre intelligence est si limitée. Il y a beaucoup de choses qui veulent habiter en nous. Paul nous dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Alors, il nous appartiendra de retenir fermement cette parole, qu'elle ne soit pas volée. Et nous pouvons nous exhorter les uns les autres et nous aider. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Il est bon de s'échanger la parole, même quand on te demande « Qu'est-ce que tu as vu à cette conférence ?» Vraiment, même l'échanger, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Nous puissions vraiment nous aider les uns les autres. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Nous pouvons nous aider mutuellement à être des vainqueurs. Si la parole habite d'une telle manière en nous, elle va nous laver et nous sanctifier. C'est certainement aussi notre expérience. Purifions nos cœurs, car il est pur, par la parole vivante. Si nous nous partageons la parole vivante, est-ce que ce n'est pas ainsi? On va expérimenter le fait que nous puissions nous laver même les pieds les uns des autres, nous purifier mutuellement. en nous parlant la parole les uns aux autres. Vraiment nous fortifier pour être des vainqueurs. Amen. Alors nous pourrons marcher comme lui-même a marché. C'est très fort. Marcher comme lui-même a marché. D'où vient la force? La force vient par cette parole vivante. Elle a une telle force. Et le point m'a beaucoup touché ici pour être fidèle comme il est fidèle. Il y a 6 versets et les 3 premiers nous montrent que le Seigneur était fidèle. Et les 3 suivants nous montrent que les vainqueurs étaient fidèles. Nous avons besoin des 2 choses. Le Seigneur était fidèle, mais ici il y a certains versets, les 3 derniers qui nous montrent que les vainqueurs sont aussi fidèles. Nous étions autrefois 10 fois plus nombreux qu'aujourd'hui, mais la plupart, beaucoup n'étaient pas fidèles. Et la raison n'est pas qu'ils n'ont pas compris la vérité. Dans beaucoup de situations, beaucoup ont compris la vérité, mais le prix pour être fidèle à la vérité était beaucoup trop élevé. Alors, je vais perdre peut-être mes amis, je vais avoir des problèmes, alors ma famille sera contre moi. Alors, beaucoup avec qui j'étais ensemble voudront ne plus avoir affaire à moi. Peut-être que je ne serai même plus dans cette salle. Il y a tellement de ces raisons qui nous poussent à ne pas être fidèles. Le Seigneur va donner beaucoup de situations, mais il nous encourage à être fidèles comme il est fidèle. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas quitté? Le Seigneur était persécuté dès sa naissance. Il n'a pas eu de vie confortable. Sa famille même était contre lui. Son propre village, là où il a grandi, voulait le tuer. Il est venu dans son peuple, en Israël, ils n'ont pas reçu. Il a dit au Père, qu'est-ce qu'il a dit au Père? Tout ça c'est trop pour moi? Non, il a été fidèle. Le Seigneur aimerait aussi, même si ce n'est pas toujours agréable pour nous, ce n'est pas une raison suffisante pour tout arrêter. J'étais à la conférence qui parlait des vainqueurs. Je suis pas un vainqueur, alors je retourne plus. Ça, c'est pas de la fidélité. C'est pas parce qu'il y a une situation difficile qui se présente à toi qu'il faut abandonner, être fidèle comme il est fidèle. Le Seigneur recherche des personnes fidèles. Apocalypse 17, verset 14, est un passage précieux. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. C'est les vainqueurs parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les fidèles. Amen. C'est le point crucial, déterminant. Beaucoup sont appelés, plusieurs sont élus. Mais il y en a peu qui sont fidèles. Dans ce dernier temps, c'est encore beaucoup plus important. Si le Seigneur revient l'année prochaine, si tu n'es pas fidèle maintenant, alors tu as tout perdu. Et si maintenant tu dis au Seigneur, « Seigneur, je veux être fidèle, comme tu es fidèle, tu es le fidèle en moi. » Alors, nous allons recevoir une grande récompense. Cela vaut la peine vraiment d'être fidèle et ne pas s'enfuir. Seigneur Jésus, nous ne devons pas nous enfuir. Encore un verset, Apocalypse 2, verset 13. C'est pour ça que nous avons appelé notre Fils ainsi. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui est si capable, non, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Amen. Quel test. Toute l'Église était déjà tombée. Mais ce frère a toujours continué à témoigner. Non, ce n'est pas juste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis à mort. Que ferons-nous si une telle situation se présente à nous? Mon témoin fidèle Antipas, mon fidèle. La plus grande récompense que tu puisses recevoir est lorsque le Seigneur revient, c'est que lorsque le Seigneur te dit « bon et fidèle serviteur ». Si le Seigneur te dit « alors tout est en ordre », si cette phrase sort de la bouche du Seigneur lorsque nous sommes devant lui, alors nous pouvons vraiment dire que le louer. C'est ce que Paul a dit. Il dit que dans une maison, il faut trouver des gens fidèles. C'est l'aimer de tout son cœur. Si tu veux être fidèle dans la vie de couple, nous sommes fidèles, pas juste parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, mais parce que nous nous aimons l'un et l'autre. Et c'est le meilleur chemin, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur. Si notre amour pour le Seigneur diminue, alors il est difficile d'être fidèle. Mais si le Seigneur est notre premier amour, alors nous pouvons vraiment lui être fidèles. Et le dernier point, c'est écrit, nous aimons le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Mes enfants m'ont demandé, avant la conférence, quel est le plus grand commandement. C'est réciter le Notre Père, je crois que c'est ça. C'est pas mal. Qui est le Père le plus élevé? Maître, quel est le plus grand des commandements? Matthieu 22, 36. Mais quelle réponse Jésus lui répondit? Nous pourrons lire cela ensemble. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Alléluia. C'est un commandement si merveilleux. J'ai dit cela au Seigneur. Cela doit être toujours ainsi jusqu'à ce que tu viennes. Alors nous serons véritablement fidèles d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Amen. Louez le Seigneur. Ce à quoi nous pensons, c'est un test. Et cela révèle ce que nous aimons réellement. Si nous pensons à beaucoup de choses terrestres, eh bien, c'est peut-être pas le Seigneur qui a la première place. Nous devons dire au Seigneur, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Alors nous deviendrons des vainqueurs. Louez le Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur.